Le tout début, c'était dur parce que j'ai eu du mal à trouver mon positionnement. Et puis, j'ai eu du mal à trouver mon positionnement au sens où il fallait aligner ce que j'avais envie de faire avec les envies du marché. Et la difficulté, c'est ou de présenter trop ce qu'on a envie de faire, auquel cas on ne rencontre l'envie de personne, ou d'essayer de se décentrer et d'aller artificiellement vers les envies du marché, ce qui ne fonctionne pas du tout. Parce qu'on est dans le dit et que 80% de non-dit disent non. Donc c'est ça qui fait que ça ne marche pas. Donc il y a un vrai travail, c'est vraiment du fine-tuning à faire. C'est pour le coup, moi c'est pareil, ça a été de laisser erreur. J'ai eu beaucoup de prospection, j'ai eu beaucoup de gens pour voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et pour in fine trouver quelque chose qui fonctionne. Donc, et faire aussi les rencontres de gens qui à un moment vont nous aider, dire ok, je comprends pas forcément très bien ce que tu fais, mais n'empêche, c'est intéressant, on a bossé ensemble, c'était vachement bien, viens, on va faire un truc ensemble. C'est comme ça que j'ai décroché mon premier deal chez Michelin grâce à un de mes anciens profs qui était consultant chez eux. Voilà, on a monté un module tous les deux ensemble, il a dit « Ah ouais, c'est vachement bien ce que tu fais, j'aime bien la façon dont on travaille... » C'est pas « c'est vachement bien ce que tu fais », c'est « j'aime bien la façon dont on travaille ensemble, moi je bosse pour Michelin, j'ai besoin de me renouveler sur certains trucs, je t'emmène avec moi. » Et donc j'ai eu mon premier deal avec Michelin comme ça. Et là, ça fait rencontrer une autre réalité, donc j'ai beaucoup appris, j'ai pu me dire « mais tiens, c'est à ça que ça peut servir, c'est à ça que... » Et c'est en ça que, par exemple, j'ai vu que les MOOC étaient vraiment une niche. Une niche intéressante, mais une niche. Et qu'en vrai, il n'y a pas vraiment la place pour plus de 2, 3 ou 4 acteurs. Et ces acteurs-là, ils existaient déjà. Et ils étaient pertinents. Donc, et puis encore une fois, moi, les MOOC, ce n'est pas forcément ce que j'avais envie de faire. Je trouve ça très contraignant. Donc, ben, il a fallu trouver autre chose. Et c'est cette autre chose que j'ai avancé au fur et à mesure. Donc, les 6 premiers mois où concrètement tout le monde dit non, c'est très dur.
C'était le brouillard, vous ne savez pas où t'allais.
Ah ouais. Ouais, et puis bon, je sortais d'école. Alors au début, c'est marrant parce que tous tes potes sont chômeurs, et puis tout d'un coup, ils trouvent tous un boulot relativement bien payé. Toi, tu merdes, t'as emprunté de l'argent pour vivre, tu factures des missions payées que dalle. C'est pas simple. Enfin voilà, c'est pas. On se pose beaucoup de questions. C'est un peu le brouillard, ouais, c'est compliqué, puis faut garder la niaque pour avoir envie de se lever le matin. Donc ça, c'était ce d'autant plus que j'ai pas d'associé, donc c'était compliqué de se reposer sur quelqu'un ou d'échanger avec quelqu'un avec qui on partageait le même projet pour le faire, quoi. Donc ça, c'était un premier point, une première difficulté. Deuxième difficulté, c'est une difficulté de recrutement. Voilà, une personne avec qui je bossais depuis quasiment le début de la boîte et qui, avec la montée en pression, nos relations fonctionnent plus. Nos relations de travail fonctionnent plus. Donc, bah ça s'est passé que après un clash, deux clashs, trois clashs, et il a fallu prendre une décision, et j'ai pris la décision, voilà, en tout cas de séparer nos routes provisoirement. Donc c'est quelqu'un avec qui je travaillais régulièrement et avec qui je travaille moins aujourd'hui.
Mais t'as réussi à faire ça, comment dire, avec douceur, c'est-à-dire que c'était pas.
En tout cas, depuis que la décision est prise, depuis que j'ai pris la décision de moins travailler avec lui, les choses se passent beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on continue à travailler ensemble, parce que malgré tout, avec la montée en charge, je suis quand même obligé de continuer à travailler avec des gens qui connaissent ma façon de travailler. Mais c'est vrai que depuis qu'on a pris la décision de moins travailler j'ai pris la décision de moins travailler ensemble. Curieusement, ça a été très bien vécu parce que les clashs étaient à répétition, puis c'était toujours la même chose, donc c'est bien la preuve qu'il y a un problème de fond. Et donc voilà. Donc c'est pas est-ce que c'est un échec, j'en sais rien, non, parce que c'est une relation qui m'a permis de progresser et de progresser et puis de faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Est-ce que c'est une mais par contre c'est une difficulté à traverser et c'est pas évident. C'est beaucoup moins simple à traverser qu'un trou de trésor, par exemple. Mm-hmm. Un trou de trésor ne m'empêche pas de dormir parce que ça se gère. Un problème humain m'empêche de dormir.
Et qu'est-ce qui t'a permis justement de continuer pendant cette période de brouillard où tu savais pas trop où t'allais, où tu voyais qu'autour de toi, bah, c'était pas la même chose.
C'est la relation. Déjà, les quelques petits deals que j'obtenais, quand même, me maintenaient une forme de réalité, parce que j'en obtenais malgré tout, auprès de proches et auprès d'un réseau proche. Pas forcément ma famille, c'était pas ma famille du tout d'ailleurs, mais c'est... Voilà, ça pouvait être les decks, ça pouvait être des boîtes créées par des gens que je connaissais, qui me faisaient confiance parce que c'était Valentin Fluteau et pas parce que j'avais un positionnement intéressant. Donc ça a aidé bien, ce d'autant plus que les retours, après que je travaille avec eux, étaient bons. Donc ça quand même, je me disais, il y a quand même une voie à travailler. Et puis le plan familial et perso, quoi. Je veux dire, depuis le début de mes études, j'ai la même conjointe, compagne. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas de mal à les qualifier de compagne, mais qui a toujours cru en moi, qui a toujours entendu que je voulais monter ma boîte. Je suis rentré à l'EDEC avec l'idée de monter ma boîte. Entre guillemets, elle m'a toujours soutenu et elle a toujours accepté ça et elle a toujours une oreille bienveillante. Et puis mes parents et mon frère, enfin ça, je dois avouer que le côté familial est très important aussi. Donc ça aide clairement. C'est des trucs sur lesquels le week-end on peut se reposer, quoi.
D'accord. Donc grâce à ça, t'as réussi à continuer. Tu dirais que ça a pris combien de temps jusqu'à ce que tu sois. Encore, je dis peut-être qu'aujourd'hui tu vas me dire j'ai encore beaucoup à faire avant de me sentir posée. Par rapport à ton business model, par rapport à tout
Alors, la sortie du brouillard, c'était 6 mois après. Mm-hmm. C'est court et c'est long. Enfin, a posteriori, c'est court, mais sur le moment, c'est long. La montée en charge progressive qui m'a permis, par exemple, de me dégager un salaire, ça a duré 1 an. Et le fait de trouver un positionnement, ça a été long. Ça a pris 2 ans et demi. Ça fait quand même 1 an que j'ai globalement le même positionnement. Mm-hmm. Que je n'ai pas modifié tous les 2 mois pour essayer de m'adapter au marché. Mm-hmm. Okay. Ça fait 1 an que j'ai le même positionnement. 6 mois que je structure une démarche commerciale et un réseau autour de ça. Et là, 2 mois que ça fonctionne commercialement.
Tu disais que dès que tu as commencé l'école, tu savais que tu voulais monter ta boîte.
Ouais.
Pourquoi ? Quelle était justement ton ambition au départ ? Est-ce que c'était Make You Learn ou est-ce que c'était quelque chose qui n'avait rien à voir ?
Non, ça n'avait pas rien à voir au sens où c'était de l'industrie de contenu, mais moi, mon ambition, c'était de faire de l'audiovisuel et de monter ma boîte de prod télé.
D'accord. Okay.
Mais c'est vrai que de toute façon, c'est intéressant, c'est que effectivement, j'avais toujours cette idée de faire de la télé, de faire des.
Depuis
tout petit, ouais. Quand je regardais Jacques Martin le dimanche après-midi, je voulais pas être le gamin qui chantait, je voulais être Jacques Martin, pour faire simple. Depuis plus du tout, hein. Je me suis complètement souvenu. Mais non, par contre, j'ai toujours eu l'idée de monter ma boîte et de créer une structure. Ça, c'est un truc qui me plaît. J'ai toujours été, même dans les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, je travaillais dans des toutes petites boîtes, dans des très grosses boîtes. Je travaillais chez Sony, une grosse boîte. J'ai toujours eu un comportement un peu franc-tireur, quoi. Entre guillemets, ce qui m'ennuyait, je le faisais pas. Et j'expliquais pourquoi je le faisais pas, parce que ça n'avait pas de sens pour moi. Puis j'ai expliqué le sens. Puis après 3 réunions, les types abandonnaient, parce que c'est bon, quoi. De toute façon, on n'arrivera à rien à lui faire faire qu'il a pas envie. Pas pour autant que j'étais pas efficace, hein.
Un vrai entrepreneur, j'ai envie de dire.
Voilà. Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai que j'ai été formé à ça parce que mon père est entrepreneur, donc il a monté sa boîte dans le paramédical, ça a très bien fonctionné. Et donc, c'est vrai qu'il y a des, entre guillemets, des bonnes pratiques, un état d'esprit que j'ai eu, en fait, assez jeune et qui m'a nourri et que j'ai eu envie ou de reproduire ou d'adapter ou, enfin, en tout cas, j'ai eu envie d'en faire quelque chose. Donc ça, voilà, c'est probablement ce qui m'a nourri et c'est probablement ce qui, dans le fond, m'a donné envie, m'est toujours apparu comme une évidence que j'allais devenir entrepreneur. Voilà.
Quelle est ta définition ou ton approche du succès en tant qu'entrepreneur? Et justement, cette approche, est-ce qu'elle a changé depuis ces trois dernières années? Le mot succès, hein. T'es pas obligé d'avoir...
Non, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. C'est toujours la liberté, l'autonomie et la cohérence. J'insiste sur les trois ensemble. Parce que dans la liberté, je veux dire, effectivement, on est contraint par plein de trucs quand on est entrepreneur. Mais enfin, dans le fond, on est libre. Ça, c'est un truc puissant, quand même. On est probablement moins contraint, curieusement, quand on est salarié, mais dans le fond, on ne fait pas ce qu'on veut. Et ça, c'est un truc... Aujourd'hui, je ne vendrai, entre guillemets, ma place pour rien au monde. Je n'ai absolument pas envie. L'autonomie, c'est très important. Et là, il y a un côté financier évident, quoi. C'est qu'à un moment, j'ai aussi envie de dépendre de personne. Personnellement. Et puis, le troisième point, c'est la cohérence. On rejoint la question du sens. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai aussi envie d'être moi, de faire des choses qui me plaisent, de faire des choses qui me nourrissent et qui me permettent de m'accomplir. En fait, la résultante de tout ça, c'est l'accomplissement. Et donc pour moi, le succès, c'est l'accomplissement. Et ça l'a toujours été. C'est un mot que j'utilise depuis une dizaine d'années.
Mais justement, par rapport à ce que tu as croisé, que ce soit dans tes années à l'EDEC ou même ailleurs, c'est pas tout le monde qui a cette approche du succès. Hein. Pour beaucoup de personnes, ça va être aussi quelque chose de plus, on va dire, matérialiste plutôt que quelque chose de personnel. Parce que là, quand tu donnes ton approche, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, qui a du sens. C'est vraiment quelque chose qui est dépendant de ton ambition à toi. Personne ne peut te donner succès sauf toi,
ouais.
Concrètement. Est-ce que tu avais des doutes? Parce qu'aujourd'hui, enfin, faut bien dire ce qui est, dans notre société actuelle, c'est pas quelque chose qu'on vend ou qu'on nous apprend. Est-ce que tu es toujours resté persuadé? Genre, tu t'es dit chaque matin, bon, est-ce que je suis toujours infidèle à moi-même? C'est que je suis sur la bonne voie. Ou c'était naturel?
Non, je me fais beaucoup plus confiance qu'avant, si c'est ça la question. Je me fais beaucoup, beaucoup plus confiance qu'avant. C'est-à-dire que aujourd'hui, avant, si j'avais un sentiment négatif, un truc qui me tordait le bide, j'avais tendance à le relativiser, à le mettre sur le tapis. Aujourd'hui, je l'écoute.
D'accord. T'avais donc plus de doutes.
Non. Par contre, je les écoute mieux, mes doutes.
D'accord.
Non, j'ai pas plus. Non, bien au contraire. Quand je parle de confiance en moi, c'est pas une confiance aveugle. Loin de là. Loin de là. Je veux dire, et là-dessus, j'ai la chance de bénéficier d'un réseau de proches, comme je le disais, ma famille, ma compagne, qui m'alerte aussi, qui m'envoie des warnings. Et que j'écoute surtout quand ils sont en cohérence, même avec une impression un peu masquée, quoi. Mais qui est là. Mais oui, je m'écoute. Non, c'est pas des certitudes, si c'est ça, là, voilà, c'était le mot que je cherchais. J'ai pas plus de certitudes qu'avant, c'est pas vrai. Par contre, je suis beaucoup plus à l'écoute de moi-même.
D'accord.
Et je me fais beaucoup plus confiance, c'est-à-dire que je fais encore moins confiance au modèle de développement qu'on nous présente qu'avant, c'est-à-dire que, voilà, effectivement, tu rentres en école de commerce, tu fais le master en entrepreneuriat comme je l'ai fait, et puis on t'explique le modèle start-up et qu'il faut suivre ça pour se développer. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'entendre. En fait, a posteriori, on nous laissait plus de liberté qu'on l'imaginait, mais c'est comme ça qu'on pouvait l'entendre sur le moment. Et aujourd'hui, j'ai moins confiance dans ces modèles-là. Et je les prends plus comme des informations, c'est-à-dire qu'ils me nourrissent. Entre guillemets, je ne suis pas en train de monter une boîte de conseils lambda. Ce qu'on fait avec cette méthodologie très précise, dans le fond, on ne produit qu'un seul service et que j'essaie d'industrialiser au maximum. Donc ça, c'est une approche plutôt tech, une approche plutôt start-up. quand je parle de design thinking, quand je parle de ces choses-là, c'est pas une approche consulting traditionnelle qui va être très, très modélisée, qui va être un truc... bon, j'exagère, hein, j'ai pas envie de faire hurler ni les consultants, ni les start-upers quand je dis ça, mais voilà, j'essaye de m'inspirer des deux et j'essaye en tout cas de trouver des choses avec lesquelles j'accroche. Pour faire un aparté, je travaille avec le groupe Inergence et on est partenaire avec le groupe Inergence, qui est un groupe de conseillers en management, qui a développé un modèle managérial qui s'appelle la tonicité managériale, qui est un truc qui m'alimente beaucoup. Personnellement, en tant qu'entrepreneur, c'est un modèle et un diagnostic de tonicité que je fais régulièrement pour voir où j'en suis et si je suis vraiment cohérent. Ça m'a sauvé d'une crise managériale, ce modèle-là. Tout d'un coup, j'ai perçu grâce à ce modèle, j'ai pris conscience que, en fait, j'ai livré un double discours à mes collaborateurs. C'est-à-dire que je leur demandais d'être industriel et d'être carré, tout en valorisant un discours d'hyper-autonomie, de créativité, etc. Et je ne comprenais pas pourquoi ils ne suivaient pas. Et en fait, ils ne suivaient pas parce qu'ils ne comprenaient pas, ils avaient des sentiments contradictoires, ils avaient raison. Et ça m'a permis d'en prendre conscience. Mais par contre, c'est, voilà, c'est un modèle aussi que je vais utiliser dans mes productions pour mes clients. C'est un modèle hyper intéressant. Donc voilà, j'essaye de me nourrir de plein de choses tout en restant fidèle à moi-même. C'est les deux. En fait, le management, c'est pas qu'une manière de gérer les gens. Le management, c'est la prise en compte. En tonicité managériale, on dit que c'est la prise en compte des enjeux court terme qui est l'efficacité opérationnelle. Faire en sorte qu'on délivre et que ça crée de la valeur. De l'agilité stratégique, donc là c'est les enjeux moyen terme, c'est prendre en compte les enjeux environnementaux et les changements autour de nous pour s'assurer qu'on réponde toujours aussi bien au marché et qu'on soit toujours aussi efficace et que notre valeur ne diminue pas, notre valeur perçue ne diminue pas, et puis des enjeux long terme qui concernent le développement du capital humain. Donc en fait, le truc c'est d'être assez logique pour alimenter ces trois enjeux et d'avoir un système managérial, donc une attitude, une stratégie, une organisation qui, à un moment, fait en sorte que les trois enjeux soient nourris et que l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise soit nourri sur ces trois enjeux. Donc, il y a plein de choses, hein. Ça peut passer par des formations, ça peut passer par une organisation de réunion, ça peut passer par une organisation de travail, ça peut passer par un lieu de vie dans l'espace de travail. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent faire que ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est cette réflexion-là qui a lieu. Maintenant, pour répondre à moi par rapport à l'entreprise, il y a deux choses. Il y a Valentin Fluteau, chef d'entreprise, responsable du développement de l'entreprise, qui est solide, qui essaye d'être le plus cohérent possible sur le long terme et qui essaye d'être le plus solide possible. Maintenant, il y a aussi Valentin, chef d'entreprise, à la tête d'un collectif humain et qui ne peut pas faire autre chose que de se remettre en question et de se poser des questions sur soi tout le temps. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est comme ça que je le vis. Parce que il y a un moment, c'est de la matière humaine et qu'on est quand même obligé de le prendre en compte. Donc il y a cette double casquette à avoir en permanence, parce qu'il faut donner confiance au marché, mais il faut donner confiance à ses collaborateurs, et que c'est pas du tout la même chose. On donne confiance au marché, ils aiment les gens solides, et ils ont raison. Je veux dire, quand on m'explique que quand je vais pour acheter une voiture et que la voiture est pas fiable, ben, je l'achète plus. Pourquoi Toyota et Volkswagen sont aujourd'hui les deux plus grandes marques automobiles du monde? Ben, c'est une raison qui tient pour moi essentiellement à la fiabilité. Mais à l'inverse, mes collaborateurs, ils ont besoin, mes collaborateurs, mes partenaires, enfin, il y a tout le monde, hein, et mes clients, à un certain point, ils ont besoin de voir quelqu'un qui évolue et qui n'est pas qui n'est pas figé. Donc c'est ni l'un ni l'autre, en fait. Et c'est les deux à la fois.
C'est une diffuse originale du poste, envie de dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la casquette du chef Valentin, chef d'entreprise, qui gère des personnes. Comment tu fais pour garder cette valeur, on va dire, humaine, dans ton rapport avec tes collaborateurs? C'est-à-dire, est-ce que tu as des choses que tu fais différemment que les autres? Est-ce que tu as justement une philosophie de vie que tu essayes, un modèle particulier que tu essayes de...
Oui, non. C'est un truc que j'ai pas forcément identifié. J'ai identifié des valeurs que je cite souvent. C'est l'exigence, c'est la curiosité et c'est l'empathie. Je cite pas la bienveillance, que tout le monde cite la bienveillance. Mais voilà, ça c'est les trois valeurs. Non, il y en a une quatrième qui est très importante, qui est l'humilité. Ça, c'est vraiment les quatre valeurs importantes qui définissent et le système managérial et notre approche et notre positionnement. Ça, c'est un truc très important. Et qui sont des choses sur lesquelles, pour le coup, je n'ai pas envie de dire que je n'en reviendrai pas, mais je transige peu. Il y a un moment, j'ai toujours du mal avec ce côté il faut être humain, il faut être... Est-ce que ça passe par des choses? Je ne sais pas. C'est une vraie question. Est-ce qu'il y a un mode managérial qui est mis en place? Oui, peut-être, mais je ne peux aussi travailler qu'avec un certain nombre de personnes. Il y a des gens avec qui je ne peux pas travailler. Le système managérial de Make You Learn, il est forcément lié à Valentin Fluteau. Et il y a des gens qui ne vont pas se sentir bien du tout. Mais auquel cas, ce n'est pas des gens avec qui je peux travailler non plus. C'est que ça va dans les deux sens, en fait.
Est-ce que tu as un modèle qui t'a inspiré depuis que, justement, ce rêve de devenir entrepreneur? Est-ce que tu as des modèles, justement, tu peux parler, qui t'as suivi pendant ton parcours, avant même de devenir la personne que tu es aujourd'hui?
Oui, il y a des gens qui m'inspirent. Il y a des gens qui m'inspirent, c'est la tarte à la crème, mais Steve Jobs a une histoire incroyable. C'est quand même le type, il est parti sur un besoin non nécessaire et il a réussi à créer la boîte la plus chère, entre guillemets, de l'histoire du capitalisme. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Ça, c'est un truc, c'est au minimum interrogeant. Après, il y a des gens dans l'industrie de contenu qui m'impressionnent beaucoup. J'en ai parlé tout à l'heure, je pense à un type comme André Rousselet qui a créé Canal+. Ce type, il crée Canal+ à 65 ans. C'est-à-dire quand on voit tout le monde à 60 ans partir à la retraite, lui, il a créé Canal+, qui est quand même une boîte importante, quoi. Et qui a fait confiance à plein de gens et qui a réussi à créer un environnement de travail et une image de marque et une relation avec ses clients. Un truc incroyable, quoi, en laissant à la fois une liberté tout en donnant le cap. C'est un modèle de leader très puissant pour moi. C'est un type qui m'inspire beaucoup. J'ai lu ses mémoires, c'est un type qui est mort il y a 7-8 mois, à 92 ou 13 ans. Ses mémoires sont incroyables, quoi. C'est un truc à lire. Il a eu plusieurs vies en une. Il a été directeur de cabinet de Mitterrand. C'est lui qui a financé les campagnes de Mitterrand. Il a été député. Il a créé la compagnie de taxi G7. C'est comme ça, en fait, qu'il a créé... qui s'est enrichi. Canal+, entre guillemets, il a jamais eu de capital. Enfin, il a jamais été majoritaire. C'est un projet qu'il a dirigé plus ou moins à la demande de Mitterrand. Mais que pour autant, il a réussi à faire émerger et à développer de façon extraordinaire, quoi. Et justement, pas politique. C'est la synthèse parfaite, pour moi, d'un entrepreneur à la française. C'est un type cultivé, intelligent, et qui, pour autant, sait développer les choses à l'américaine, quoi. À l'américaine, au sens où il est efficace, stratégique et aligné. Il cherche pas à gérer plein de choses en même temps. Il est aligné entre... sa stratégie, son système de management et ses actions, quand je dis ses actions de sa boîte, au quotidien. Donc ça a fait un système surpuissant, quoi. En alignant ce qu'est la force française, cette espèce de rationalité, de dialectique permanente, qui forme quand même parmi les gens les plus intelligents du monde. J'ai pas trop de doute là-dessus. Enfin, je veux dire, il suffit de voir la proportion de Français en Silicon Valley, c'est énorme, quoi. Je crois que c'est la troisième communauté linguistique en Silicon Valley, très largement surreprésentée par rapport au reste de la Californie et au reste des États-Unis. Donc il y a quand même un truc. Et de l'autre côté, cet entrepreneuriat à l'américaine qui est d'une efficacité redoutable.
Une dernière question, parce qu'on a déjà pris beaucoup de temps. Quel est le pire conseil que tu aies reçu ?
Associe-toi à tout prix. C'est un truc, si on n'a pas envie de s'associer, c'est qu'on n'est pas fait pour. n'y a pas à le chercher à tout prix. Je suis lauréat du réseau Entreprendre. Ils ont beaucoup de mal à prendre à accompagner des entrepreneurs en association, parce qu'il y a un taux d'échec beaucoup plus important et à chaque fois lié à l'association. Donc il faut faire très attention à l'association. Et il faut prévoir des clauses de séparation dès le début si on monte sa boîte en association. C'est un truc hyper important. Pour des raisons normales. Je veux dire, on est deux êtres humains avec 200 millions de neurones dans chaque cerveau et qu'on n'évolue pas de la même manière, on n'a pas la même histoire, pas la même expérience, donc on n'évoluera pas de la même manière, y compris par rapport au projet sur lequel on semble à l'origine être complètement d'accord. Donc il paraît que c'est formidable quand ça fonctionne, par contre c'est pas du tout une obligation.
Ok, super, merci beaucoup Valentin.
Je t'en prie.
Valentin Fruteau de Make You Learn. Pour retrouver plus d'informations sur Valentin et son projet, rendez-vous sur le site sonybox.com. Je vous retrouve prochainement sur le podcast Sonybox dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Thank you.